Huit jours environ s'écoulèrent, pendant lesquels le baron de Sucy fut souvent aux prises avec des angoisses mortelles. Aussi bientôt ses yeux n'eurent-ils plus de larmes. Son âme, souvent brisée, ne put s'accoutumer au spectacle que lui présentait la folie de la comtesse, mais il pactisa, pour ainsi dire, avec cette cruelle situation et trouva des adoucissements dans sa douleur. Son héroïsme ne connut pas de bornes. Il eut le courage d'apprivoiser Stéphanie en lui choisissant des friandises. Il mit tant de soin à lui apporter cette nourriture, il sut si bien graduer les modestes conquêtes qu'il voulait faire sur l'instinct de sa maîtresse, ce dernier lambeau de son intelligence, qu'il parvint à la rendre plus privée qu'elle ne l'avait jamais été. Le colonel descendait chaque matin dans le parc, et si, après avoir longtemps cherché la comtesse, il ne pouvait deviner sur quel arbre elle se balançait mollement, ni le coin dans lequel elle s'était tapie pour y jouer avec un oiseau, ni sur quel toit elle s'était perchée, il sifflait l'air si célèbre de « Partant pour la Syrie » auquel se rattachait le souvenir d'une scène de leurs amours. Aussitôt, Stéphanie accourait avec la légèreté d'un faon. Elle s'était si bien habituée à voir le colonel qu'il ne l'effrayait plus. Bientôt, elle s'accoutuma à s'asseoir sur lui, à l'entourer de son bras sec et agile. Dans cette attitude si chère aux amants, Philippe donnait lentement quelques sucreries à la friande comtesse. Après les avoir mangées toutes, il arrivait souvent à Stéphanie de visiter les poches de son ami par des gestes qui avaient la vélocité mécanique des mouvements du singe. Quand elle était bien sûre qu'il n'y avait plus rien, elle regardait Philippe d'un œil clair, sans idée, sans reconnaissance. Elle jouait alors avec lui. Elle essayait de lui ôter ses bottes pour voir son pied. Elle déchirait ses gants, mettait son chapeau. Mais elle lui laissait passer les mains dans sa chevelure, lui permettait de la prendre dans ses bras et recevait sans plaisir des baisers ardents. Enfin, elle le regardait silencieusement quand il versait des larmes. Elle comprenait bien le sifflement de « Partant pour la Syrie », mais il ne put réussir à lui faire prononcer son propre nom de Stéphanie. Philippe était soutenu dans son horrible entreprise par un espoir qui ne l'abandonnait jamais. Si, par une belle matinée d'automne, il voyait la comtesse paisiblement assise sur un banc, sous un peuplier jauni, le pauvre amant se couchait à ses pieds et la regardait dans les yeux aussi longtemps qu'elle voulait bien se laisser voir, en espérant que la lumière qui s'en échappait redeviendrait intelligente. Parfois, il se faisait illusion, il croyait avoir aperçu ses rayons durs et immobiles, vibrant de nouveau, amolli, vivant, et il s'écriait « Stéphanie, Stéphanie, tu m'entends, tu me vois !» Mais elle écoutait le son de cette voix comme un bruit, comme l'effort du vent qui agitait les arbres, comme le mugissement de la vache sur laquelle elle grimpait. Et le colonel se tordait les mains de désespoir toujours nouveau. Le temps et ses vaines épreuves ne faisaient qu'augmenter sa douleur. Un soir, par un ciel calme, au milieu du silence et de la paix de ce champêtre asile, le docteur aperçut de loin le baron occupé à charger un pistolet. Le vieux médecin comprit que Philippe n'avait plus d'espoir. Il sentit tout son sang affluer à son cœur, et s'il résista au vertige qui s'emparait de lui, c'est qu'il aimait mieux voir sa nièce vivante et folle que morte. Il accourut. « Mais que faites-vous » dit-il. « Ceci est pour moi, » répondit le colonel, en montrant sur le banc un pistolet chargé. « Et voilà pour elle, » ajouta-t-il, en achevant de fouler la bourre au fond de l'arme qu'il tenait. La comtesse était étendue à terre et jouait avec les balles. Vous ne savez donc pas, reprit froidement le médecin, qui dissimula son épouvante, que cette nuit, en dormant, elle a dit « Philippe ». Elle m'a nommé, s'écria le baron en laissant tomber son pistolet que Stéphanie ramassa. Mais il le lui arracha des mains, s'empara de celui qui était sur le banc et se sauva. Pauvre petite, s'écria le médecin, heureux du succès qu'avait eu sa supercherie. Il pressa la folle sur son sein et dit en continuant : Il t'aurait tué, l'égoïste. Il veut te donner la mort parce qu'il souffre. Il ne sait pas t'aimer pour toi, mon enfant. Nous lui pardonnons, n'est-ce pas ? Il est insensé. Et toi, tu n'es que folle. Va, Dieu seul doit te rappeler près de lui. Nous te croyons malheureuse parce que tu ne participes plus à nos misères. Sots que nous sommes, mais, dit-il en l'asseyant sur ses genoux, tu es heureuse, rien ne te gêne. Tu vis comme l'oiseau, comme le daim. Elle s'élança sur un jeune merle qui sautillait, le prit en jetant un petit cri de satisfaction, l'étouffa et le regarda mort, et le laissa au pied d'un arbre sans plus y penser. Le lendemain, aussitôt qu'il fit jour, le colonel descendit dans les jardins, il chercha Stéphanie, y croyait au bonheur. Ne la trouvant pas, il siffla. Quand sa maîtresse fut venue, il la prit par le bras. Et marchant pour la première fois ensemble, ils allèrent sous un berceau d'arbres flétris dont les feuilles tombaient sous la brise matinale. Le colonel s'assit et Stéphanie se posa d'elle-même sur lui. Philippe en trembla d'aise. « Mon amour, lui dit-il en baisant avec ardeur les mains de la comtesse, « je suis Philippe. » Elle le regarda avec curiosité. « Viens, ajouta-t-il en la pressant, « mais sans tu battre mon cœur, il n'a battu que pour toi, je t'aime toujours. Philippe n'est pas mort, il est là. Tu es sur lui, tu es ma Stéphanie et je suis ton Philippe. Adieu, dit-elle, adieu. Le colonel frissonna, car il crut s'apercevoir que son exaltation se communiquait à sa maîtresse. Son cri, déchirant, excité par l'espoir, ce dernier effort d'un amour éternel, d'une passion délirante, réveillait la raison de son ami. « Ah, Stéphanie, nous serons heureux !» Elle le laissa échapper à un cri de satisfaction, et ses yeux eurent un vague éclair d'intelligence. « Elle me reconnaît, Stéphanie !» Le colonel sentit son cœur se gonfler, ses paupières devenir humides. Mais il vit tout à coup la comtesse, lui montrer un peu de sucre qu'elle avait trouvé en le fouillant pendant qu'il parlait. Il avait donc pris pour une pensée humaine ce degré de raison que suppose la malice du singe. Philippe perdit connaissance. Monsieur Fanjat trouva la comtesse assise sur le corps du colonel. Elle mordait son sucre en témoignant son plaisir par des minauderies qu'on aurait admiré si, quand elle avait sa raison, elle eût voulu imiter par plaisanterie sa perruche ou sa chatte. « Ah, mon ami !» s'écria Philippe en reprenant ses sens. « Je meurs tous les jours, à tous les instants. J'aime trop. Je supporterais tout si, dans sa folie, elle avait gardé un peu de caractère féminin. » Mais la voir toujours sauvage et même dénuée de pudeur, la voir... Oh, il vous fallait donc une folie d'opéra, dit aigrement le docteur. Et vos dévouements d'amour sont donc soumis à des préjugés. Et quoi, monsieur? Je me suis privé pour vous du triste bonheur de nourrir ma nièce. Je vous ai laissé le plaisir de jouer avec elle. Je n'ai gardé pour moi que les charges les plus pesantes. Pendant que vous dormez, je veille sur elle, je... Allez, monsieur, abandonnez-la. Quittez ce triste ermitage. Je sais vivre avec cette chère petite créature. Je comprends sa folie, j'épie ses gestes. Je suis dans ses secrets. Un jour, vous me remercierez. Le colonel quitta les bons hommes pour n'y plus revenir qu'une fois. Le docteur fut épouvanté de l'effet qu'il avait produit sur son hôte. Il commençait à l'aimer à l'égal de sa nièce. Si ces deux amants, il y en avait une digne de pitié, c'était certes Philippe. Ne portait-il pas à lui seul le fardeau d'une épouvantable douleur ? Le médecin fit prendre des renseignements sur le colonel et apprit que le malheureux s'était réfugié dans une terre qu'il possédait près de Saint-Germain. Le baron avait, sur la foi d'un rêve, conçu un projet pour rendre la raison à la comtesse. À l'insu du docteur, il employait le reste de l'automne aux préparatifs de cette immense entreprise. Une petite rivière coulait dans son parc, où elle inondait en hiver un grand marais qui ressemblait à peu près à celui qui s'étendait le long de la rive droite de la Bérézina. Le village de Satou, situé sur une colline, achevait d'encadrer cette scène d'horreur comme Studzianka enveloppait la plaine de la Bérézina. Le colonel rassembla des ouvriers pour faire creuser un canal qui représenta la dévorante rivière où s'étaient perdus les trésors de la France, Napoléon et son armée. Aidé par ses souvenirs, Philippe réussit à copier dans son parc la rive où le général Eblé avait construit ses ponts. Il planta des chevalets et les brûla de manière à figurer les ais noirs et à demi consumés qui, de chaque côté de la rivière, avaient attesté aux traînards que la route de France leur était fermée. Le colonel fit apporter des débris semblables à ceux dont s'étaient servis ses compagnons d'infortune pour construire leur embarcation. Il ravagea son parc afin de compléter l'illusion sur laquelle il fondait sa dernière espérance. Il commanda des uniformes et des costumes délabrés afin d'en revêtir plusieurs centaines de paysans. Il éleva des cabanes, des bivouacs, des batteries qu'il incendia. Enfin, il n'oublia rien de ce qui pouvait reproduire la plus horrible de toutes les scènes, et il atteignit son but. Vers les premiers jours du mois de décembre, quand la neige eut revêtu la terre d'un épais manteau blanc, il reconnut la Bérézina. Cette fausse Russie était d'une si épouvantable vérité que plusieurs de ses compagnons d'armes reconnurent la scène de leurs anciennes misères. Monsieur de Sucy garda le secret de cette représentation tragique, de laquelle, à cette époque, plusieurs sociétés parisiennes s'entretinrent comme d'une folie. Au commencement du mois de janvier 1820, le colonel monta dans une voiture semblable à celle qui avait amené M. et Mme de Vandière de Moscou à Studzianka et se dirigea vers la forêt de l'Isle-Adam. Il était traîné par des chevaux à peu près semblables à ceux qu'il était allé chercher au péril de sa vie dans les rangs des Russes. Il portait les vêtements souillés et bizarres, les armes, la coiffure qu'il avait le 29 novembre 1812. Il avait même laissé croître sa barbe, ses cheveux et négligé son visage pour que rien ne manquât à cette affreuse vérité. « Je vous ai deviné !» s'écria M. Fanjat en voyant le colonel descendre de voiture. Si vous voulez que votre projet réussisse, ne vous montrez pas dans cet équipage. Ce soir, je ferai prendre à ma nièce un peu d'opium. Pendant son sommeil, nous l'habillerons comme elle l'était à Studzianka et nous la mettrons dans cette voiture. Je vous suivrai dans une berline. Sur les 2 heures du matin, la jeune comtesse fut portée dans la voiture, posée sur des coussins et enveloppée d'une grossière couverture. Quelques paysans éclairaient ce singulier enlèvement. Tout à coup, un cri perçant retentit dans le silence de la nuit. Philippe et le médecin se retournèrent et virent Geneviève qui sortait demi-nue de la chambre basse où elle couchait. « Adieu, adieu, c'est fini, adieu !» criait-elle en pleurant d'un chaud de larmes. « Eh bien, Geneviève, qu'as-tu ? » lui dit Monsieur Fanjat. Geneviève agita la tête par un mouvement de désespoir, leva les bras vers le ciel, regarda la voiture, poussa un long grognement, donna des marques visibles d'une profonde terreur et rentra silencieuse. « Cela est de bon augure !» s'écria le colonel. « Cette fille regrette de n'avoir plus de compagne. Elle voit peut-être que Stéphanie va recouvrer la raison. »« Dieu le veuille !» dit M. Fanjat, qui parut affecté de cet incident. Depuis qu'il s'était occupé de la folie, il avait rencontré plusieurs exemples de l'esprit prophétique et du don de seconde vue dont quelques preuves ont été données par des aliénés et qui se retrouvent au dire de plusieurs voyageurs chez les tribus sauvages. Ainsi que le colonel l'avait calculé, Stéphanie traversa la plaine fictive de la Bérésina sur les 9 heures du matin. Elle fut réveillée par une boîte qui partit à 100 pas de l'endroit où la scène avait lieu. C'était un signal. 1000 paysans poussèrent une effroyable clameur, semblable au hurrah de désespoir qui alla épouvanter les Russes quand 20 000 traînards se virent livrés par leur faute à la mort ou à l'esclavage. À ce cri, à ce coup de canon, la comtesse sauta hors de la voiture, courut avec une délirante angoisse sur la place neigeuse, vit les bivouacs brûlés et le fatal radeau que l'on jetait dans une bérésina glacée. Le major Philippe était là, faisant tournoyer son sabre sur la multitude. Madame de Vandière laissa échapper un cri qui glaça tous les cœurs et se plaça devant le colonel qui palpitait. Elle se recueillit, regarda d'abord vaguement cet étrange tableau. Pendant un instant aussi rapide que l'éclair, ses yeux eurent la lucidité dépourvue d'intelligence que nous admirons dans l'œil éclatant des oiseaux. Puis elle passa la main sur son front avec l'expression vive d'une personne qui médite. Elle contempla ce souvenir vivant, cette vie passée traduite devant elle, tourna vivement la tête vers Philippe et le vit. Un affreux silence régnait au milieu de la foule. Le colonel haletait et n'osait parler. Le docteur pleurait. Le beau visage de Stéphanie se colora faiblement, puis de teinte en teinte, elle finit par reprendre l'éclat d'une jeune fille étincelant de fraîcheur. Son visage devint d'un beau pourpre. La vie et le bonheur, animés par une intelligence flamboyante, gagnaient de proche en proche comme un incendie. Un tremblement convulsif se communiqua des pieds au cœur, puis ces phénomènes qui éclatèrent en un moment eurent comme un lien commun quand les yeux de Stéphanie lancèrent un rayon céleste, une flamme animée. Elle vivait, elle pensait, elle frissonna de terreur peut-être. Dieu déliait lui-même une seconde fois cette langue morte et jetait de nouveau son feu dans cette âme éteinte. La volonté humaine vint avec ses torrents électriques et vivifia ce corps d'où elle avait été si longtemps absente. « Stéphanie !» cria le colonel. « Oh, c'est Philippe !» dit la pauvre comtesse. Elle se précipita dans les bras tremblants que le colonel lui tendait, et l'étreinte des deux amants effraya les spectateurs. Stéphanie fondait en larmes. Tout à coup, ses pleurs se séchèrent, elle se cadavérisa, comme si la foudre l'eût touchée, et dit d'un son de voix faible, « Adieu, Philippe, je t'aime. Adieu. » Oh, elle est morte, s'écria le colonel en ouvrant les bras. Le vieux médecin reçut le corps inanimé de sa nièce, l'embrassa comme eût fait un jeune homme, l'emporta et s'assit avec elle sur un tas de bois. Il regarda la comtesse en lui posant sur le cœur une main débile et convulsivement agitée. Le cœur ne battait plus. « C'est donc vrai, » dit-il, en contemplant tour à tour le colonel immobile et la figure de Stéphanie, sur laquelle la mort répandait cette beauté resplendissante, fugitive auréole, le gage peut-être d'un brillant avenir. Oui, elle est morte. Ah, ce sourire, s'écria Philippe, voyez donc ce sourire, est-ce possible? Elle est déjà froide, répondit M. Fanjat. M. de Sucy fit quelques pas pour s'arracher à ce spectacle, mais il s'arrêta, siffla l'air qu'entendait la foule, et ne voyant pas sa maîtresse accourir, il s'éloigna d'un pas chancelant comme un homme ivre, sifflant toujours mais ne se retournant plus. Le général Philippe de Sucy passait dans le monde pour un homme très aimable et surtout très gai. Il y a quelques jours, une dame le complimenta sur sa bonne humeur et sur l'égalité de son caractère. « Ah, madame, lui dit-il, je paie mes plaisanteries bien chères le soir, quand je suis seul. Êtes-vous donc jamais seul ?»« Non, répondit-il en souriant. » Si un observateur judicieux de la nature humaine avait pu voir en ce moment l'expression du comte de Sucy, il en eût frissonné, peut-être. « Mais pourquoi ne vous mariez-vous pas ?» reprit cette dame, qui avait plusieurs filles dans un pensionnat. « Vous êtes riche, titré, de noblesse ancienne, vous avez des talents, de l'avenir, tout vous sourit. »« Oui, » répondit-il, « mais il est un sourire qui me tue. » Le lendemain, la dame apprit avec étonnement que M. de Sucy s'était brûlé la cervelle pendant la nuit. La haute société s'entretint diversement de cet événement extraordinaire, et chacun en cherchait la cause. Selon les goûts de chaque raisonneur, le jeu, l'amour, l'ambition, des désordres cachés, expliquaient cette catastrophe, dernière scène d'un drame qui avait commencé en 1812. Deux hommes seulement, un magistrat et un vieux médecin, savaient que M. le comte de Sucy était d'un de ces hommes forts auxquels Dieu donne le malheureux pouvoir de sortir tous les jours triomphant d'un horrible combat qu'il livre à quelque monstre inconnu. Que pendant un moment Dieu leur retire sa main puissante, ils succombent. Paris, mars 1830.